On this vote, the ayes are 232, the nays are 197. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid upon the table.
Donc, Raphaël, on vient d'entendre Nancy Pelosi, la chef des démocrates à la Chambre des représentants, et 232 représentants qui ont voté pour la procédure d'impeachment du président contre 197 qui ne voulaient pas.
Et 232, c'est pas n'importe quoi, Patrick. C'est le plus grand nombre de votes dans l'histoire américaine pour l'impeachment d'un président. Écoute, Donald Trump vient de battre son propre record. C'est lui-même qui, il y a à peine un an, avait décroché le record de tous les temps.
Encore une fois, il est exceptionnel.
T'as tout compris. Encore une fois, il est le meilleur des meilleurs des meilleurs. Et donc, écoute, c'est quand même pas rien. Surtout dans un contexte où on en parle beaucoup là, depuis les dernières heures dans les médias, il y a 10 républicains qui ont voté avec la totalité des démocrates présents pour mettre en accusation le président. Ça aussi, il n'y a aucun espèce de précédent dans l'histoire américaine d'avoir autant de membres du parti du président à la Chambre qui votent pour l'accuser. Donc, ça mérite d'être dit. Ce qui mérite quand même aussi d'être dit, c'est que ça n'arrive pas pour rien, ça. Tu sais, toi et moi, évidemment, on a passé la semaine à se parler de la gravité de ce qu'on a vu mercredi dernier, mais je veux qu'on s'en parle, là, justement dans le contexte des autres présidents qui ont été mis en accusation. Le premier président à avoir été impeaché, tu me pardonneras l'anglicisme, tu le sais comme moi, il n'y a pas de traduction parfaite en français, là. C'est Andrew Johnson, 19e siècle. C'était une question de congédiement illégal qu'avait fait le président.
Il y avait qui avait-il congédié?
Il avait congédié son... À ce moment-là, il y avait le département de la guerre, son secrétaire à la guerre. Okay? Je ne rentrerai pas, crois-moi, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'était... Écoute, c'était assez sombre comme affaire. Là. C'était pas un scandale comme ce qu'on voit présentement, et c'est surtout que c'était davantage comparable aux autres impeachments que celui d'aujourd'hui. Voici ce que je veux dire par là. Donc, première affaire, celle de Johnson, congédiement illégal. Après ça, il y a eu Nixon, à peu près 100 ans plus tard. C'était quoi? Ben évidemment, c'était l'histoire du Watergate. À la base, l'impeachment était la tentative d'impeachment, parce qu'on sait qu'on n'était pas allé jusqu'au bout. Là, Nixon avait démissionné avant. C'était une question d'entrave à la justice. 20 ans après ça, tu as eu Bill Clinton. C'était une question de parjure. Oui, évidemment, c'était l'affaire Lewinsky à la base, mais ce qu'on lui reprochait, là, c'était d'avoir menti sous serment. Et 2019-2020, dans le cadre de sa première procédure de destitution, si on veut, ce qu'on reprochait à Donald Trump dans le dossier de son fameux appel au président ukrainien, c'était de l'abus de pouvoir. C'était tous des cas sérieux, mais dans aucun cas, est-ce qu'il y avait eu mort d'homme? Là, il n'est pas simplement question d'une tentative de coup d'État, d'insurrection. Il est question d'insurrection qui a causé mort d'hommes. Ça, on ne s'en est pas encore parlé à l'émission, mais pour ceux qui ont peut-être moins entendu parler de cet aspect-là, de ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a au moins un officier de police qui a été carrément battu à mort. Là non plus, je ne rentrerai pas dans les détails, mais pas pour les mêmes raisons que tantôt, parce que je pense que c'est juste trop morbide. Mais c'est quand même pas rien d'avoir le président des États-Unis qui est accusé d'actes ayant mené directement à la mort de concitoyens.
T'as cet aspect-là, Raphaël. T'as l'aspect où il y a des gens qui sont morts dans les échauffourées. Parfait. Mais t'as aussi, l'aspect de la sédition. Écoute, il y a une foule qui voulait... Il a encouragé une foule à marcher sur le Capitole et cette foule-là voulait tuer des parlementaires.
Absolument. Absolument.
Et, je veux dire, s'ils avaient pu mettre la main sur des élus, ça aurait mal fini, là.
Tu me devances. C'est exactement ça que, en fait, j'allais lancer comme question. Qu'est-ce que tu penses qui serait arrivé s'ils avaient été capables de mettre la main sur Mike Pence, sur Nancy Pelosi?
Quand on voit le peu de sécurité qu'il y avait, ça aurait mal fini.
C'est difficile, disons, de voir un scénario dans lequel ça n'aurait pas viré encore plus mal, et je veux dire dramatiquement plus mal, que ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, il y a ça comme considération. Parlant de Mike Pence, je veux glisser un mot, là, parce que tout le monde va juste parler d'impeachment aujourd'hui, évidemment. Il faut quand même qu'on se glisse un mot sur ce qui s'est passé hier soir. Parce que la raison pour laquelle la Chambre est allée de l'avant aujourd'hui avec ce vote-là, c'est que le vice-président et le cabinet de Donald Trump ont refusé d'invoquer le 25e amendement. Ça, c'est sorti hier soir. Et je pense que le réflexe de bien des gens, ça a été de prendre cette nouvelle-là, puis presque tout de suite passer à la chose suivante en se disant, bon, ben, OK, ce que ça veut dire tout simplement, ben, c'est qu'on va aller en impeachment. Mais il y a quelque chose de majeur dans la lettre qu'a signée Mike Pence hier annonçant qu'il n'allait pas invoquer le 25e amendement, parce que tu le sais comme moi, ce type-là a été d'une loyauté, écoute, décoiffante pendant 4 ans à l'égard de Donald Trump.
Oui.
Et la lettre qu'il a signée hier disant qu'il n'allait pas invoquer le 25e amendement pour destituer Trump, ce n'était pas parce qu'il défendait le président. C'est parce qu'il croyait que, et constitutionnellement, soit dit en passant, il a peut-être entièrement raison, il croyait que ce n'était pas la meilleure façon d'adresser la situation, parce que le 25e amendement est réservé dans des cas où le président n'est pas apte, souvent le physiquement, à exercer ses fonctions. Mais à aucun espèce de moment est-ce qu'il a défendu Donald Trump, ou même est-ce qu'il a dit qu'il s'opposait à l'impeachment. Ça, là-dedans, il y avait quelque chose de très révélateur et qui était, je pense, annonciateur de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire cette dizaine de républicains qui ont voté contre. Là, ça s'en va au Sénat. Et comme je te le disais un petit peu plus tôt dans l'émission, je pense que très fort à parier qu'on va avoir là aussi un nombre historique de sénateurs républicains qui vont voter contre le président de leur parti. Fait que oui, c'est historiquement et je pense singulièrement grave ce qu'on a vu la semaine dernière. Je pense que présentement, c'est quand même traité comme tel aussi. Il y a quelque chose de peut-être un peu pas réjouissant, mais un peu réconfortant là-dedans.
OK, là, au Sénat, c'est là qu'on va trancher, c'est là qu'il y a un procès. C'est quoi, c'est quoi la majorité requise?
C'est les 2/3. Merci de poser la question parce que ça mérite d'être dit et répété. On en a beaucoup parlé lorsqu'il y a eu la première procédure de destitution il y a 1 an, mais je pense qu'il y a bien des gens qui l'ont oublié depuis. À la Chambre des représentants, ça prend une majorité simple. Au Sénat, c'est immensément plus difficile parce que là, ça va prendre pas mal plus que quoi, à peu près le 10%, le grosso modo, de républicains qui ont voté contre Trump, 10% de leur caucus à la Chambre. Là, ça va prendre à peu près le tiers des sénateurs républicains qui votent avec la totalité des démocrates.
Ça n'arrivera pas.
C'est, à ce stade-ci, ça semble peu probable. En même temps, écoute, tu as vu les nouvelles comme moi depuis hier, il y a des signaux assez clairs comme quoi, notamment là, le leader républicain, M. McConnell, serait peut-être ouvert à appuyer la condamnation de Trump, ce qui est quand même pas rien. Mais je suis d'accord avec toi que ça veut vraiment pas garantir que ça va passer, au contraire. Autre chose qui, je pense qu'il faut qu'on se dise avant de se laisser pour aujourd'hui, c'est que le Sénat ne va pas commencer le procès normalement avant le 20 janvier. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que nonobstant là, une démission, là, évidemment, qui semble là aussi assez improbable, en connaissant le personnage, on s'entend, Trump va finir son mandat le 20 janvier. La question après ça, elle va être double. C'est-à-dire, est-ce que le Sénat a même le pouvoir constitutionnel de mener un procès, en guillemets, là, en destitution contre un ex-président? Et la deuxième question, qui est beaucoup plus politique, on va s'en reparler ça aussi forcément dans les prochaines semaines, c'est à quel point est-ce que le nouveau président, M. Biden, veut que son parti injecte du temps, des efforts au tout début de son mandat à lui, pour s'occuper de son prédécesseur? C'est pas évident, mais écoute, d'un point de vue ne serait-ce que moral et démocratique, on n'aura pas le choix au Sénat d'aller de l'avant. Là.
À demain.
À demain.